France.
16h sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Antoine Beauchamp pour Science Chrono. Bonjour Antoine.
Bonjour Mathilde et à très bientôt.
Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au début du XXe siècle, le chimiste allemand Fritz Haber réussissait la synthèse de l'ammoniac. Ce qui pourrait passer pour une banale opération de laboratoire a pourtant bouleversé l'histoire de la guerre et de l'agriculture en permettant la fabrication d'engrais chimiques. Comment cette synthèse de l'ammoniac, un dérivé de l'azote, est-elle devenue un pilier de l'agriculture industrielle et à quelle dérive environnementale cette production massive d'engrais azotés nous a conduit? Science Chrono se demande aujourd'hui simplement comment l'agriculture est devenue dépendante de la chimie. Bonjour Gilles Bilaine.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS émérite en biogéochimie à Sorbonne Université. Merci beaucoup de venir nous aider à y voir plus clair dans l'histoire des engrais chimiques azotés, une histoire qui mêle à la fois la chimie, l'agriculture, mais aussi l'industrie, la géopolitique. Avant de nous lancer dans ces origines de la chimie agricole, on vous donne un petit aperçu de l'entretien archéologique dans la deuxième partie de Science Chrono. Cet entretien, ce sera vous qui l'animerez. Vincent Charpentier, bonjour.
Bonjour.
De quoi sera fait cet entretien archéologique aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, nous allons faire de la grande archéologie avec Bibracte, capitale de la nation gauloise des Éduins.
On vous retrouve tout à l'heure donc dans le Morvan. Avec grand plaisir. Mais tout de suite, on ouvre notre page d'histoire des sciences avec vous, Gilles Bilaine, et on se demande comment un procédé chimique a changé la face de l'agriculture et donc du monde, et on se penche sur l'histoire des engrais azotés. Pour ouvrir cette émission, je vous propose d'écouter notre archive du jour. Il s'agit d'un extrait de l'émission Le Monde comme il va, sous-titre Le roman de l'azote. On y entend la voix de Monsieur Vergue, directeur technique de l'ONIA, l'Office National Industriel de l'Azote, qui répond aux questions de Georges Drouet qu'on entend en fin d'archive. Cette émission était diffusée sur la RTF le 27 avril 1957.
Après la guerre 14-18, le gouvernement français a passé un contrat avec la Badische Aniline und Soda Fabrik. Contrat par lequel cette dernière cédait contre licence ses procédés de fabrication d'ammoniac à la France. C'est alors qu'il fut décidé de construire à Toulouse une usine d'une capacité de production de 100 tonnes d'ammoniac par jour. La fabrication première d'engrais à partir de cet ammoniac fut le sulfate d'ammoniac. Puis, l'usine s'est modernisée et transformée peu à peu, et l'on peut dire que c'est l'ONIA qui a lancé en France les ammonitrates. À l'heure actuelle, les usines de l'ONIA sont toujours en pleine expansion et en modernisation, et l'allure de marche de 100 tonnes prévue il y a 30 ans sera portée à 500 tonnes d'ammoniac dans le courant de 1959.
Avec ces chiffres donnés par M. Vergue, nous entamons un chapitre crucial de notre roman de l'azote, le chapitre où commence le suspense. En effet, ces quantités énormes d'engrais azotés fabriquées par l'ONIA sont répandues, sont vendues, sont utilisées dans la France entière. Mais une première question se pose dans le cadre régional. On a trop souvent tendance à dire que cette région du Sud-Ouest n'utilise pas à fond toutes les ressources de la technique moderne.
Voilà cette archive où on entend le directeur de l'ONIA qui est écrit en 1924, donc il y a 100 ans tout pile. L'ONIA qui sera renommée plus tard AZF, on en reparlera évidemment, Gilles Bilaine. Mais d'abord, on a ici un aperçu de ce roman de l'azote tel qu'on l'écrivait, tel qu'on le racontait en 1957. Qu'est-ce que vous retenez, Gilles Bilaine, des propos qu'on vient d'entendre?
Cette archive est très riche, hein, elle est fabuleuse. Bah, elle nous rappelle d'abord que, je dirais... L'azote, ça sert d'abord à faire la guerre, hein, pour paraphraser un géographe célèbre. C'est au départ une histoire très stratégique. Si Fritz Haber cherche tant à fixer l'azote de l'air en ammoniac, c'est pas pour l'agriculture, en fait, à ce moment. C'est surtout pour faire des explosifs. Mmh. Et c'est encore aujourd'hui un débouché important de l'industrie de l'azote. Mmh. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut rappeler.
Et parce qu'on parlait de 1918, on viendra bien sûr à... c'est la sortie de la guerre.
Le traité de Versailles qui impose à l'Allemagne de transmettre sa licence et son procédé. On voit bien là le lien avec l'industrie de la guerre. La deuxième chose qui me frappe dans cet archive, c'est les ordres de grandeur, je dirais. Hein, le commentateur s'extasie devant ces centaines de tonnes d'azote. On va porter à 500 tonnes la capacité de l'usine. Mais aujourd'hui, c'est en centaines de milliers de tonnes, hein, en milliards de tonnes presque, que l'on parle de l'utilisation de l'azote comme engrais industriel.
Une progression qui a été exponentielle et rapide.
En 30 ans, on a multiplié par 100 quasiment à l'échelle du monde la fixation d'azote sous forme d'ammoniac.
Alors Gilles Bilaine, on va faire de l'histoire des sciences, de l'histoire de la chimie, mais on est obligé de faire un petit peu de biologie pour nos auditrices et nos auditeurs, pour comprendre l'importance de l'azote. L'azote, c'est la vie. Donc comprendre un peu les différents types d'azote et comprendre le point de départ de cette recherche au 19e siècle en chimie autour de la synthèse de l'azote.
D'accord. C'est de la biogéochimie.
Oui.
Bon, pour simplifier, il faut dire qu'il y a deux grandes classes de composés azotés. Hein, il y a l'azote inerte, c'est une seule forme, c'est l'azote qui fait 80% de l'atmosphère, hein, qui constitue l'essentiel de la composition de l'atmosphère. C'est la molécule N2, c'est une molécule très très peu réactive, un gaz, et on peut dire qu'on nage dans un océan, une atmosphère, on nage dans l'azote en fait. Donc cet azote-là est extrêmement abondant. Et puis il y a l'azote réactif, ça c'est toutes les formes comme l'ammoniac. Puis il y a les nitrates, les ammonitrates, qui est une combinaison d'ammoniac et de nitrate, d'autres formes, les nitrites, je ne vais pas insister, mais aussi,
de l'azote, oui.
Mais aussi une forme organique, c'est-à-dire une forme qui entre dans la composition de la matière vivante, et disons, pour simplifier, les protéines. Les protéines, c'est une forme d'azote organique, dont nous sommes constitués. Voilà. Nous sommes constitués. Formes-là, l'ensemble de ces formes réactives, minérales ou organiques, sont beaucoup plus rares. Je dirais même qu'elles sont extrêmement rares à l'échelle de la planète et que tout le cycle biologique se fait par la transformation de ces formes réactives, par la transformation des formes minérales de l'azote que les plantes trouvent dans le sol et prélèvent par leurs racines et qu'elles transforment en protéines qui font leurs feuilles et puis que les animaux et les bactéries et les champignons retransforment en azote minéral, et c'est ce cycle azote minéral, azote organique, azote minéral qui est l'essence même du fonctionnement de tous les écosystèmes, qu'ils soient naturels ou qu'ils soient cultivés.
Et ça, l'agriculture, sans avoir une connaissance précise de la chimie de l'azote, là, toujours, les agriculteurs l'ont toujours compris, depuis des millénaires, on entretient la terre et on cultive la terre en ayant en tête cette question du cycle de l'azote et en pratiquant finalement des cultures cycliques, etc.
Mais parfaitement, parce que ce cycle fermé dont je parlais il y a un instant, en fait, en agriculture, il est terriblement ouvert. La majeure partie des plantes, des protéines produites par les plantes sont exportées. C'est pas comme dans une forêt où les feuilles retombent sur le sol et forment la litière. Là, la majeure partie de la production est exportée, c'est la récolte, consommée ailleurs que là où elle était produite. Et donc, le sol s'appauvrirait très vite en azote s'il n'y avait pas un apport compensatoire, une restitution au sol de l'azote qui lui a été retiré par la récolte.
Cette restitution, elle passe par la fertilisation, notamment.
Alors, c'est précisément comme ça que ça s'appelle, la fertilisation. Mais il y a deux formes de fertilisation. Il y a celle qui consiste simplement à recycler cet azote qu'on a emmené loin pour le consommer dans les villes ou à l'étable. On le ramène sous forme de fumier, si c'est à l'étable, ou d'excréments humains, comme on faisait très souvent, et on referme le cycle quelque part. Ça marche pas tout à fait parce qu'il y a toujours des pertes. Et puis c'est parfois difficile, quand on l'envoie trop loin, de ramener tout ça au sol. Donc il y a nécessité d'un autre apport supplémentaire d'azote à ce sol. Et ça implique nécessairement d'aller chercher dans le grand stock d'azote atmosphérique, de l'azote nouveau, je dirais, donc de fixer l'azote atmosphérique pour le ramener au sol sous forme réactive. Et ça, pendant des millénaires, ça s'est fait grâce à un processus naturel qui est ce qu'on appelle la fixation symbiotique. Seules quelques bactéries très particulières sont capables de faire cela. Elles vivent généralement en symbiose dans les nodulosités des racines de certaines plantes qu'on appelle légumineuses. Et elles enrichissent le sol par cette fixation symbiotique. Et c'est grâce à cela que le cycle pouvait quelque part être refermé, en tout cas qu'on pouvait fertiliser à nouveau le sol, c'est-à-dire lui restituer en quantité équivalente ce qui avait été exporté par la récolte. Et ces pratiques-là, très bon recyclage d'une part par le fumier, les fumiers je dirais, et d'autre part, insertion de légumineuses dans les rotations ou d'autres manières d'ailleurs, mais avoir recours aux légumineuses, c'est la base de l'agriculture. Donc on peut dire il n'y a pas d'agriculture sans fertilisation. Par contre, il est possible de fertiliser, et on a très longtemps fertilisé sans recours aux engrais de synthèse.
Pourquoi est-ce que, là c'était pour la partie biogéochimie, on a bien compris ce cycle grâce à ces explications très claires, pourquoi à partir du 19e siècle, l'azote devient un enjeu assez crucial, et est-ce que l'agriculture fait partie de cette réflexion et de cette mise en route finalement des puissances mondiales autour d'une synthétisation de l'azote ?
Je pense que la première motivation, elle est précisément militaire. Hein. On a besoin de plus en plus d'explosifs. On a besoin aussi de colorants, hein, qu'on prenait dans des substances naturelles, puis voilà, on synthétise les colorants. Donc on a besoin d'azote pour l'industrie, mais au premier chef pour l'industrie guerrière, pour l'industrie des explosifs. Et c'est ça qui motive les recherches sur l'azote, hein, avant tout. Avec aussi une petite curiosité sur le rôle de l'azote en agriculture, c'est vrai qu'on s'intéresse un petit peu à ça, parce que c'est vrai qu'on, dans certaines régions, l'agriculture rentre en crise à cause précisément de l'expansion des villes. Hein.
Oui, c'est Zola. Ça, les villes grandissent, il faut nourrir toute cette population, voilà. Les agriculteurs commencent à dire on peut pas produire assez.
Zola explique ça très bien dans La Terre, c'est assez marrant, il explique cette peur des agriculteurs de voir l'azote partir vers les villes, et il regrette qu'on ne puisse pas réorganiser le retour des excréments humains dans la Beauce, et il voit déjà l'abonde des fosses, des égouts parisiens refertiliser la plaine. Voilà, donc cette préoccupation-là, effectivement, elle existe en même temps que l'essor des villes.
Et il y a aussi toute une géopolitique mondiale qui s'organise autour de l'azote et autour de l'importation, par exemple, de guano, qui provenait notamment du Pérou, qui passait par des ports anglais. Là aussi, il y avait tout un marché, une économie de ces engrais-là. Enfin, oui, pas de ces engrais, mais en tout cas de...
Parce que, précisément, il n'y a pas de stock... De gisement, je dirais, d'azote réactif, précisément à cause de la réactivité de cet azote réactif. Les nitrates sont très solubles, l'ammoniac c'est très volatile, donc il n'y a pas d'endroit où on peut concentrer et accumuler des stocks d'azote réactif. Il y a un endroit dans le monde, c'est le désert d'Atacama. Au large du...
Au nord du Chili.
Au nord du Chili, au bord de la cordillère des Andes. Au nord du Chili, il y a un upwelling, c'est-à-dire des eaux marines riches en nutriments qui apportent de l'azote aux eaux de surface, des algues poussent sur cet azote, là où il y a de la lumière, du plancton, c'est le plancton, voilà, les poissons, des anchois se nourrissent de ces algues, des oiseaux se nourrissent de ces poissons et viennent mettre leur fiente sur la cordillère des Andes. Et là, parce qu'il ne pleut pas, ces nitrates peuvent s'accumuler. Et là, c'est un endroit unique, c'est une curiosité géologique. Et c'est un gisement que se disputent les puissances industrielles d'une manière terrible. Il y a une guerre
du guano, tout simplement.
Une guerre du guano entre la Bolivie, le Chili, le Pérou, qui est une guerre extraordinairement meurtrière, hein, qui aboutit à l'annexion du désert d'Atacama par le Chili. Et c'est pour ça qu'on parle de nitrates du Chili. Voilà. C'est la seule ressource géopolitiquement extrêmement importante pour l'industrie guerrière de l'Occident.
Et on comprend du coup avec ces explications que des puissances comme l'Allemagne cherchent dès les années 1850 à synthétiser l'azote. Alors comment commencent ces travaux de chimie autour de la synthèse de l'ammoniac, de l'azote ? Quelles sont les stratégies envisagées et à quoi ressemblent ces premières expériences ?
Oh, il y a différents procédés qui sont mis au point. Hein. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais certains essayent de faire passer un arc électrique dans l'atmosphère riche en azote. Ça marche un petit peu. C'est d'ailleurs ce qui se passe naturellement avec les éclairs. Il y a un petit peu d'azote fixé par les éclairs dans la pluie. Bon, on essaye de reproduire ce phénomène-là. Ça marche plus ou moins bien. Bon, Fritz Haber réussit à avoir un très bon rendement en
Fritz Haber, donc lui, il intervient plutôt vers la fin du 19e siècle. Avant lui, il y avait un chimiste et métallurgiste français, Henri Le Châtelier, qui avait commencé aussi à faire des expériences qui étaient déjà très dangereuses, avec une explosion, un mort, qui fait qu'on met un peu ces tentatives de synthèse de l'azote sous le boisseau. On dit, on y reviendra plus tard. Pourquoi cette synthèse-là, dès le début, est une chimie dangereuse? Qu'est-ce qui fait que dans cette recherche autour de la synthèse de l'azote, il y a des dangers?
Bah, je dirais à cause de la réactivité des formes d'azote réactif, à cause du fait aussi que ammoniac et nitrate peuvent réagir ensemble d'une manière extrêmement explosive.
On pense à la nitroglycérine, voilà, ça vient de là.
De l'azote oxydé dans un composé carboné, et donc c'est comme si on mettait de l'oxygène actif sur du charbon, du charbon de bois. Bon, voilà, ça explose parce que. Ce sont des formes très réactives, effectivement, et qui sont donc explosives.
On peut maintenant en venir à Fritz Haber, que vous nous présentiez.
Pourquoi il est si pressé de faire ça? C'est précisément parce que la guerre de 14 se prépare et que les nitrates du Chili, c'est un petit peu dangereux.
Ils transitent par les ports anglais, déjà, donc voilà, ça pose problème.
Ils sont emportés par bateau, la marine anglaise est tout de même capable de bloquer ce trafic. L'Allemagne d'ailleurs est capable aussi de bloquer par les navires arrivant en France ou en Angleterre. Donc il y a voilà s'affranchir de cette dépendance aux importations de nitrate du Chili, c'est stratégiquement très important.
Alors Fritz Haber, là, il travaille l'humain dans la main avec l'industrie, une industrie naissante, une entreprise naissante qui s'appelle elle est née en 1865, mais c'est la Badische Aniline und Soda Fabrik dont on entendait parler
dans la
BASF, voilà, aujourd'hui la plus grosse industrie chimique, enfin l'entreprise chimique la plus rentable. Et ce qui est intéressant, c'est que les industriels qui accompagnent Fritz Haber le suivent, le financent, mais ne croient pas trop à l'industrialisation du processus. Pourquoi cette tiédeur? Est-ce que c'est lié finalement, parce que si j'ai bien compris, c'est lié aussi à certains réactifs qui l'utilisaient ou des catalyseurs qui seraient trop coûteux et qui font que ils le laissent faire, ils financent ses recherches, mais ils se disent finalement on ne pourra pas le développer à une trop grosse échelle.
Le processus n'est pas simple, hein, effectivement. Donc, on était en train de le décrire. Il consiste à mettre sous pression de l'hydrogène et de l'azote gazeux inerte, sous forte pression à haute température, avec effectivement le catalyseur approprié, et c'est là qu'est la difficulté. Mais Fritz Haber avait trouvé la bonne combinaison métallique qui permettait de faire ça.
De l'osmium, un catalyseur très coûteux.
Très extrêmement coûteux, mais enfin le catalyseur, c'est pas une matière première du processus, il n'est pas perdu dans la réaction. Mais il faut faire de l'hydrogène aussi, et c'est là qu'est la difficulté. Comment est-ce qu'on fait de l'hydrogène en grande quantité c'est l'étape précédente quelque part. On sait faire de l'hydrogène, on gonflait des ballons, hein. Mais c'est très explosif l'hydrogène, précisément. Cet hydrogène-là, du temps de Fritz Haber, était produit par le charbon. On chauffe du charbon en présence de vapeur d'eau et une bonne partie de l'eau est transformée en hydrogène qu'on utilise alors pour le processus. C'est très coûteux en énergie, ça bouffe une quantité de charbon monumentale. Donc c'est pas tellement le fait de devoir chauffer à haute température et haute pression l'hydrogène et l'azote qui consomment de l'énergie. C'est le fait de produire cet hydrogène. Et ça n'est pas facile.
Oui.
Ça, c'est très coûteux.
Alors Fritz Haber annonçait en 1909, le 23 mars, qu'il avait réussi, aux dirigeants de la BASF, qu'il avait réussi donc à produire durant 5 heures et en continu de l'ammoniac liquide. Arrive un deuxième participant, le chimiste et ingénieur allemand Karl Bosch, qui lui va permettre de simplifier ce processus, qui va faire qu'en 1913, la première usine de la BASF à produire de l'ammoniac liquide sera fonctionnelle. C'est le tout début de cette fabrication industrielle d'azote, de synthèse, d'une certaine façon, à la veille de la Première Guerre mondiale. On le disait, c'est pas du tout un hasard. Si on passe sur cette... Alors bien sûr, Fritz Haber, lui, il n'a pas fait que ça. Il a contribué aussi à la fabrication de gaz qui ont été utilisés sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale.
Un ardent défenseur des gaz de combat.
Voilà, et un promoteur de ces gaz-là. Quand on parle de ça, du coup, de cette synthèse de l'azote, on se dit, mais à quel moment, finalement, ce processus qui était très lié à l'industrie militaire est transféré massivement vers l'engrais, vers l'agriculture? Qui et comment s'opère cette transition-là?
Elle ne s'opère pas du jour au lendemain. Il faut quand même bien dire que le gros boom de l'utilisation des engrais azotés industriels, ce sera... Après la Seconde Guerre mondiale. Dans l'entre-deux-guerres, des essais se font. Dans certaines régions qui étaient déjà assez spécialisées dans la céréaliculture, je pense à la Beauce, en France. Là, on se dit, on pourrait essayer les engrais. Et ça, effectivement, les plantes répondent bien à ça. Et ça, c'est vrai que, je dirais que c'est plus qu'expérimental, parce que ça concerne des régions entières, mais c'est encore les premiers balbutiements. Où ça démarre vraiment très fort, c'est après la Seconde Guerre mondiale, où on se dit, maintenant c'est fini la guerre, mais on a toutes ces usines sur les bras.
On a ces stocks de chimie sur les bras, et il faut pouvoir les faire tourner.
Ça rentre très bien dans ce grand rêve d'industrialisation de l'agriculture, qui est la modernisation agricole. C'est pas que la chimisation.
C'est la mécanisation,
c'est la pétrolisation, et ça permet aussi la spécialisation, c'est-à-dire une forme de fordisme agricole. Les régions céréalières, c'est celles avec les bons sols, où on peut avoir les meilleurs rendements, à condition de doper en azote précisément, où on va exclure l'élevage, parce qu'on n'a plus besoin de ces chevaux ni de ces bœufs pour tirer les charrues, on a des tracteurs maintenant, et puis l'élevage, il est cantonné dans les moins bons sols, où on apportera toute la nourriture du bétail. Donc on spécialise l'agriculture en séparant élevage et agriculture géographique. On ouvre donc d'une manière phénoménale les cycles dont je parlais tout à l'heure. On les ouvre d'une manière qui est tout à fait inédite dans l'histoire. Et donc, effectivement, à partir du moment où on rêve de cela, l'azote de synthèse devient nécessaire, devient un élément clé, un pilier de cette
révolution.
Mais il faut bien dire qu'il fait partie de tout ce système de modernisation de l'agriculture.
Mais ce qui est fou, Gilles Bilen, c'est de se dire que d'une opération chimique et d'une synthèse de l'ammoniac, alors bien sûr, il n'y a pas que ça, mais on arrive à une modification de notre environnement, à une modification de nos paysages. Voilà, si la Beauce, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en partie dû à ce procédé d'Haber-Bosch.
Ça n'est possible, en tout cas, que parce qu'on dispose d'engrais de synthèse.
Et qui dit aussi, Gilles Bilen dit monoculture, dit aussi prolifération de certains parasites, et donc du coup création de toute une économie des pesticides.
Absolument, et d'une économie des semences aussi, parce qu'on va pouvoir sélectionner les variétés qui répondent le mieux à l'azote, qui seront peut-être pas les plus résistantes, mais en tout cas qui donneront les meilleurs rendements dans ces conditions de surfertilisation.
Alors si on fait un bilan autour de ce parcours du procédé Haber-Bosch et de la synthétisation de l'azote et la production massive d'engrais azotés, on entendait parler de ces proportions 100 tonnes, 500 tonnes, est-ce que la production de ces engrais devient rapidement exponentielle et s'exporte partout?
Oui, tout à fait. Non seulement la production de ces engrais augmente, mais il faut dire aussi que la production agricole, la production de protéines, n'augmente pas dans les mêmes proportions. Plus on fertilise une terre, moins la part des engrais apportés par cette fertilisation qui se retrouve dans la récolte est importante. Et ça veut dire que le reste s'en va dans l'environnement. Les pertes aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, la moitié des apports fertilisants à l'agriculture française se retrouve dans la récolte. L'autre moitié se retrouve dans les nappes, dans l'atmosphère, rivières. Dans les rivières, donc dans les océans, ou dans les mers côtières en tout cas. C'est non seulement une augmentation du rendement de l'agriculture, mais c'est aussi une augmentation de l'enrichissement délétère de l'environnement en composés azotés.
Ça, il faut le rappeler, Gilles Bilen, si on doit faire le portrait de ce recours massif aux engrais azotés aujourd'hui et de ses conséquences, Les marées vertes, par exemple, qu'on voit régulièrement sur les côtes, sur le littoral français, proviennent
c'est
directement
une
de...
conséquence de cette ouverture des systèmes agroalimentaires, de l'agriculture en particulier. Mais vous pourriez en dire autant de la contamination des aquifères, qui est aujourd'hui un problème majeur. Vous pourriez en dire autant de la pollution atmosphérique, qui...
Je disais que 50% des émissions de CO2 liées à l'agriculture sont dues directement au procédé Haber-Bosch, qui représente à peu près 15% des émissions totales de CO2. C'est complètement fou de se dire que voilà, en à peine 40 ans, 50 ans, cette chimie de l'azote a eu des conséquences aussi importantes finalement sur notre écologie. Il y a eu aussi évidemment, et on peut pas ne pas en parler, on parlait tout à l'heure de l'ONIA qui est l'ancêtre d'AZF. Il y a eu des événements dramatiques, l'explosion d'AZF en 2001 où étaient stockées finalement 300 à 400 tonnes d'ammonitrate. La même chose le 4 août 2020 à Beyrouth où là c'était 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui sont partis en fumée. Et malgré ça, on a l'impression que les engrais azotés ont encore de beaux jours devant eux. En France, on annonce la création d'une usine qui produira 500 000 tonnes d'engrais azotés par an. Alors l'argument, c'est de dire que ça créera moins de CO2 lié à l'importation de ces produits, mais est-ce que ces engrais azotés ont de beaux jours devant eux et est-ce que on envisage des solutions alternatives à ces engrais-là?
Mais malheureusement pas. Et pourtant, elles existent. Et pourtant, elles sont pratiquées. On a coutume de dire, et c'est vrai, que la moitié de l'humanité, aujourd'hui, dépend des engrais Haber-Bosch pour leur approvisionnement alimentaire. De là à dire que la moitié de l'humanité serait morte si Fritz Haber n'avait pas été là, et on en fait un espèce de bienfaiteur de l'humanité, ce qui est assez
cocasse
quand on sait ce qui s'est passé. Dire ça, ce qui est vrai, c'est quand même dire aussi que l'autre moitié s'en passe parfaitement. ça veut bien dire, et d'ailleurs, que la totalité de la population mondiale s'en est passée pendant des millénaires, parce que l'agriculture c'était quand même très performante avant Haber-Bosch. Donc, les solutions pour se passer de l'azote industriel existent. Elles requièrent évidemment un changement structurel majeur de l'agriculture. Mais un changement structurel qui est du même ordre que celui que l'agriculture précisément a subi dans l'autre sens pendant 30 ans.
Extrêmement rapide. Alors, ce changement. Ouais,
Oui, tout à fait. Mais bon, c'est quoi les alternatives? C'est précisément... Il y a trois leviers qu'on peut mettre en œuvre. Il y a d'une part... la généralisation des cultures de légumineuses dans les rotations culturelles. C'est ce qui s'est toujours fait, et c'est ce que l'agriculture biologique, d'ailleurs, fait avec une performance bien meilleure, d'ailleurs, que l'agriculture des années 30 ou du 19e siècle. Mais l'agriculture biologique a développé des rotations de culture qui permettent d'apporter suffisamment d'azote grâce à la culture de luzerne, de trèfle, de sainfoin, ou d'haricots, de lentilles ou de pois chiches. Ces plantes-là permettent d'apporter de l'azote aux autres cultures de la rotation. Donc, généralisation de ces rotations culturelles agroécologiques. D'autre part, améliorer le recyclage. Et ça, c'est pas très difficile, mais ça implique de reconnecter l'agriculture et l'élevage. Je parlais de cette déconnexion géographique qui a eu lieu. Remettre ensemble les activités d'élevage et les activités de céréaliculture, c'est permettre de refermer le cycle. Et alors, évidemment aussi, c'est utiliser les engrais humains. L'urine contient 80% de l'azote que nous excrétons, et c'est un composé facile à récupérer, finalement, et à utiliser dans... Enfin, l'usine dont vous parliez dans la Somme, qui est en projet, avec ses 500 000 tonnes d'azote, elle apporterait à peine plus que le gisement qui est constitué par l'urine humaine en France, quoi. Et elle apporterait en fait beaucoup moins, trois fois moins à peu près, que le potentiel de fixation symbiotique des légumineuses dans les rotations dont je parlais. Donc, quantitativement, on se demande pourquoi on prend tant de peine à créer de nouvelles usines très chères parce que effectivement on peut plus se permettre de fabriquer l'hydrogène hein, nécessaire à la synthèse à Albert Bosch à partir de ni de charbon bien sûr ni même de gaz naturel parce que ça produit beaucoup de CO2, beaucoup de gaz à effet de serre. Donc on envisage de le faire par des procédés électriques d'électrolyse de l'eau. Mais c'est ça va consommer énormément d'énergie, certes renouvelable, enfin ça risque d'être de l'énergie nucléaire, mais enfin décarbonée sans doute, mais c'est beaucoup d'énergie, alors que les gisements sont là.
On verra, Gilles Bilaine, si on pourra un jour ou l'autre tourner cette page des engrais chimiques azotés. Merci en tout cas de nous avoir permis de comprendre cette histoire de la naissance de l'agro-industrie liée à l'azote. Pendant que les champs brûlent par Niagara sur France Culture, vous écoutez toujours Science Chrono, le premier chapitre de l'émission s'achève. Et sans plus attendre, on ouvre le deuxième, celui de l'entretien archéologique avec vous, Vincent Charpentier. Rebonjour Vincent.
Rebonjour Antoine.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Vincent Charpentier, Antoine Beauchamp.
Quand et dans quel contexte voit-on émerger ces villes gauloises dont les puissantes murailles ont été décrites par César? D'ailleurs, comment s'organisaient ces centres de pouvoir des 2e et 1er siècles avant notre ère et ont-ils été édifiés à l'image même des Gaulois? Voici 40 ans, Christian Goudineau posait une question. Y a-t-il une ville proto-historique? Question à laquelle les archéologues se sont attelés au travers de recherches, notamment d'un programme européen d'exception, celui de Bibract, capitale d'un des peuples les plus puissants de Gaule. Pour découvrir les genèses et l'histoire de cette ville, Vincent Guichard, bonjour.
Bonjour.
Archéologue et proto-historien Vincent Guichard, vous êtes directeur général de ce vaste établissement public qu'est Bibract et qui se compose d'un musée et d'un centre de recherche européen au cœur d'un domaine de 1000 hectares de forêt du Morvan. Bibract est surtout une ville gauloise, fouillée depuis 40 ans par des archéologues français et de toutes nations, capitale des Éduins, frères de Rome, celle-là même qui vit Vercingétorix et l'union des armées gauloises, mais aussi César y hivernait après la chute d'Alésia. Vincent Guichard, 40 ans de recherche sur une ville enfouie au sommet d'une montagne, n'est-ce pas tout à la fois peu et beaucoup ?
Alors, c'est beaucoup au regard de la durée habituelle des fouilles archéologiques aujourd'hui, qui sont des fouilles de sauvetage, où on ne reste pas rarement plus d'une saison sur le même site. Peu ou normal vis-à-vis des grandes fouilles qu'on a pu faire, notamment dans le monde méditerranéen, dans le monde classique, où on sait des sites sur lesquels on est en place depuis un siècle
Délos.
Et demi. Et Delphes. On pensait évidemment à Délos, à Delphes, à Carthage et à tous ces grands lieux, et à Rome, bien évidemment. Donc à Bibract, c'est vrai que les archéologues ont pris pied sur le site dans les années 1860. Et cette durée est extrêmement intéressante parce que, bon, c'est là que se construisent des nouvelles générations d'archéologues. Hein, 3 générations d'étudiants qui sont passés à Bibract depuis 40 ans.
8000 chercheurs.
Ouais, à peu près, oui, voilà. Oui, mais chercheurs et étudiants, hein, pas que des chercheurs, hein, surtout des gens en formation qui ont appris à manier la truelle sur les terrains de fouille du Beuvray. Et puis c'est aussi ce dont on a absolument besoin, des lieux où on peut collecter des masses énormes d'informations, hein, et d'aller rentrer dans le détail, hein, d'avoir des référentiels dans tout un tas de disciplines, et aussi de se faire croiser des approches extrêmement différentes, et puis d'expérimenter de nouvelles approches archéologiques. Moi, je suis intimement convaincu qu'on a toujours, plus que jamais, besoin de lieux sur lequel on concentre des moyens importants pour l'archéologie et pour d'autres choses. On pourra peut-être en revenir tout à l'heure.
Donc, de la méthodologie aussi. Il n'y a pas que la fouille. Il y a eu aussi le LIDAR, maintes expérimentations.
Oui, on essaye au maximum d'utiliser ce grand bac à sable pour archéologues qu'est le Mont Beuvray pour tester de nouvelles techniques. Notre marotte, en ce moment, parmi d'autres, c'est de concevoir une nouvelle génération de systèmes d'information archéologique qui puissent à très court terme, absorber des nouveaux outils comme l'intelligence artificielle qui va permettre aux archéologues d'être beaucoup plus intelligents qu'ils le sont aujourd'hui.
J'espère.
C'est le grand défi du moment.
Remontons le temps, évoquons la mémoire de Christian Goudineau, professeur au Collège de France. Pour vous comme pour moi, un très grand ami et qui fut le pionnier de cette problématique autour des villes celtiques.
Oui, peut-être malgré lui. Hein. Donc Christian Goudineau était un grand romaniste qui a fouillé en Italie, qui a beaucoup œuvré en Provence. Il a longtemps été enseignant-chercheur à l'université d'Aix. Et en fait, il a rencontré les Gaulois et les Celtes dans les années 1970, qui sont vraiment la décennie qui, en France qui voit le démarrage, hein, de la nouvelle archéologie celtique après le 19e siècle, la Renaissance.
Olivier avec, Vincentius, pour un citer.
Oui, et quelques autres, c'est-à-dire le moment où ces archéologues classiques, Goudineau en tête, croisent les spécialistes de l'archéologie de l'Europe tempérée, de l'archéologie des Celtes, dont le principal représentant en France est Paul-Marie Duval, hein, et dans le cadre de son séminaire de l'École pratique des hautes études, avec un moment très particulier qui est le grand congrès de l'USPP, l'Union des sciences préhistoriques et protohistoriques, à Nice, en 76, où les deux mondes se sont rencontrés, même d'ailleurs, il paraît autour d'un terrain de foot, m'a-t-on dit. Et c'est vraiment à ce moment-là que Goudineau s'est intéressé à cette première histoire urbaine de la Gaule en dehors du monde méditerranéen.
Et il va écrire un fameux article, donc, dans un ouvrage, France rurale, France urbaine, confrontation, écrit bien sûr par Georges Duby.
Alors c'est
un moment capital.
Voilà, donc c'est sorti en 1978, si mes souvenirs sont bons, c'est le premier volume de l'histoire de la France urbaine, donc dont l'éditeur scientifique était Duby. Moi, ça a été mon livre de chevet, hein, de très jeune archéologue encore adolescent, puis je crois toute ma génération, parce que c'est vraiment une synthèse absolument remarquable sur les villes de la Gaule romaine, brillantissime, et c'est aussi la mise en place des questionnements sur ce qui allait devenir, qui était peu advenu à l'époque, d'une archéologie de la ville protohistorique.
La recherche sur l'urbanisme celtique intéressait les chercheurs de la fin du XIXe siècle, une recherche qui fut fauchée par la Première Guerre mondiale et disparue dans les limbes de l'oubli.
Dans les limbes de l'oubli, non, parce que cette première génération de chercheurs, je dirais, qui est entre 1860 et la veille de la Première Guerre mondiale, a inventé, hein, l'archéologie, la préhistoire et la protohistoire de l'Europe, et d'ailleurs, hein, bien évidemment.
On parlait de l'archéologie celtique même.
Et de l'archéologie celtique, dont la définition a pu changer avec le temps, mais ça nous emmènerait un petit peu trop loin de rentrer dans le détail. Mais on peut dire que l'âge d'or de l'archéologie protohistorique en Europe, c'est les années 1860-70 où toute la chronologie se met en place. Donc on réinvente des millénaires d'histoire du continent européen et de la planète en général, en une vitesse absolument phénoménale. Et c'est un mouvement véritablement international. Je dirais que malgré les grands conflits que connaît l'Europe à ce moment-là, c'est fascinant de voir ce moment d'effervescence intellectuelle. Ces gens-là ont inventé évidemment des grands concepts, ont fait les grandes fouilles fondatrices, dont celle de Bibracte, hein, qui commence en 1864. Une collecte tout à fait impressionnante d'informations, très très bien analysées et archivées dans le cas de Bibracte, et qu'on utilise encore aujourd'hui quotidiennement, et des grands travaux de synthèse. Et évidemment, on ne peut pas, concernant Bibracte, ne pas mentionner Joseph Deschlette, qui est donc ce chercheur, qui était par ailleurs capitaine d'industrie, il n'était pas à l'université, né en 1862 et qui s'intéresse aux Gaulois grâce à Bibracte, et qui va en une vitesse fulgurante entre le début des années 1900 et 1914, produire la plus grande synthèse, la première grande synthèse d'archéologie préhistorique et protohistorique de l'Europe, un manuel d'archéologie monumental dont une dizaine de fascicules ont été publiés. Dernier fascicule publié sur les Celtes du Second Âge du Fer, donc les Celtes de Bibracte, au printemps 1914. Il prévoyait qu'il y ait une suite sur le passé romain de l'Europe. L'histoire on a décidé autrement, puisqu'il s'est engagé à 52 ans comme capitaine dans l'infanterie, et il est mort début octobre sur le front. Donc l'archéologie européenne aurait certainement eu une orientation très différente sans la disparition brutale de personnalités très fortes comme Deschlette. Et bien évidemment, pour revenir à Bibracte, les fouilles s'arrêtent, et pendant 80 ans.
Et vous avez refouillé d'ailleurs les fameuses ce qu'avaient fait Deschlette et Bulliot, ça qui est intéressant.
Très très souvent,
vous avez repris les fouilles, les anciennes
très
fouilles.
Très souvent, on reprend les anciennes fouilles qui sont un point d'ancrage, bien évidemment, et fort heureusement, je dirais, c'est des fouilles qui généralement étaient assez superficielles et qui nous laissent encore beaucoup de choses à voir.
Vincent Guichard, Bibracte, cela fait 35 ans que je suis ses fouilles et ses avancées, mais la genèse du projet était aussi très intéressante, où l'on croise alors bien sûr Christian Goudineau du Collège de France, Christian Père de Normale Supérieure, mais aussi François Mitterrand qui fait de Bibracte un site d'intérêt national, et là on est dans les années 84-85, c'est un grand tournant.
Alors, en fait, c'est un hasard absolument incroyable, avec une autre grande personnalité du monde scientifique qu'il faut signaler, même si son rôle est ponctuel, mais déterminant, c'est Paul Venn, qui a une fulgurance au mois de mai 81, donc au moment de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, de proposer à Jacques Lang, son tout nouveau ministre de la Culture, de lancer une grande opération archéologique sur le Mont Beuvray, sans penser initialement qu'on était dans la circonscription électorale de l'ancien parlementaire qui était Mitterrand, et donc Mitterrand connaissait chaque arbre du Mont Beuvray. Alors il lui a fallu 24 heures pour réaliser qu'en fait il y avait vraiment un coup politique à faire. Ça a marché. Alors il a fallu 4 ans pour que ça démarre, parce que quelques membres de la communauté archéologique se sont dit oula, si on met beaucoup d'argent sur le projet du Beuvray, ça va siphonner tout l'argent de l'archéologie française, et il est urgent d'attendre. Bon, néanmoins les choses se sont faites, parce que Mitterrand y a vu une possibilité incroyable de marquer son passage sur ces terres du Morvan auxquelles il était très attaché. Donc il a donné la possibilité aux archéologues de démarrer quelque chose. Au milieu des années 80, on donne les premiers coups de pioche en 84, personne ne sait où on va. Les plus optimistes imaginent qu'on est là pour 10 ans, et en fait, 40 ans plus tard, on est encore présent sur le site.
Vous serez le deuxième grand projet de la culture après le Grand Louvre. C'est quand même incroyable que l'archéologie protohistorique celtique ait été aussi d'un seul coup valorisée. D'ailleurs, j'ai réécouté le discours du 17 septembre 1985 de François Mitterrand, où il dit que j'y suis souvent venu à mon tour imaginer, rêver ce que pourrait être Bibracte et le Mont Beuvray rendu à notre histoire.
Ben, c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc Bibracte est un lieu de mémoire, je dirais vraiment majuscule, puisque c'est le lieu où très probablement a été écrit le premier grand récit historique qui concerne le territoire qui, un millénaire plus tard seulement, allait devenir la France, en l'occurrence le Debello Gallico de Jules César, parce qu'il est très très plausible que c'est à ce moment-là, après la bataille d'Alésia, pendant les mois qui suivent la bataille d'Alésia, que César, qui a cantonné à proximité du Mont Beuvray, a mis la dernière main à son récit.
Hein. Vous avez retrouvé le camp ?
Non, on n'a pas retrouvé le camp, ça reste un sujet, et on le retrouvera forcément un jour. De mon point de vue, c'est peut-être sous ce qui deviendra quelques décennies après la guerre des Gaules, la ville d'Autun. Hein. Mais bon, c'est un sujet complètement ouvert.
En tout cas, François Mitterrand, pour en finir, voudra même s'y faire enterrer, ça fera beaucoup de papier dans la presse à ce moment-là. C'est d'où l'importance de Bibracte.
Il y a réfléchi d'ailleurs longtemps avant sa disparition début 96. Hein, on en a quelques documents pour cela, mais ça ne s'est pas fait.
Science Chrono, l'entretien archéologique.
Vincent Guichard, 1984, nous voici devant un programme de recherche, non plus pour faire un récit national, mais pour dans un contexte totalement européen.
Oui, et le grand sujet du moment, je pense, pour la génération d'archéologues qui m'a précédé, qui sont à l'origine de ce programme de recherche, vous avez parlé de l'équipe de Christian Père, Olivier Bouchenschutz, Jean-Paul Guillaumet, Alain Duval, n'ont cité que les Français, et tant d'autres à l'échelle européenne, c'était de redonner leur dignité aux Gaulois et aux Celtes, hein, de montrer que c'était une civilisation à part entière qui avait aussi eu son modèle urbain, notamment. Donc c'était vraiment ça. Hein.
Donc comprendre la genèse de l'urbanisation en Europe celtique.
Voilà, et puis même démontrer de façon qu'il y avait eu une ville gauloise. Hein, c'était même une forme de credo de l'époque. Hein, il fallait absolument le démontrer. Quitte à, sur le Mont Beuvray, fouiller et supprimer rapidement les vestiges plus récents. Hein, on a des vestiges du Moyen-Âge, ponctuellement sur le Mont Beuvray. On a des vestiges d'architecture romanisée extrêmement intéressants, mais qui n'étaient pas le principal sujet au départ. Donc c'était le substrat gaulois qu'on recherchait.
À la fin du IIe siècle, un étonnant phénomène s'opère. Des villes ouvertes, sans remparts, souvent dans les plaines, sont abandonnées au profit de hauteurs, où l'on érige de puissants remparts. Nous voici devant les oppidas, c'est le terme exact qu'emploie César. Que s'est-il passé et est-ce le cas de Bibracte ?
Alors, on parle bien du IIe siècle avant notre ère.
Avant notre ère, voilà, bien sûr.
Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est vrai que les oppidas apparaissent au terme d'une période de développement démographique et économique tout à fait considérable, qui couvre le IIIe et le IIe siècle avant notre ère, qui est très bien documenté, particulièrement en France, grâce à l'archéologie de sauvetage. Hein. Très brutalement, et ça peut être en l'espace de quelques décennies tout au plus, voire même dans une fourchette de temps plus fine, plus étroite, les oppidas apparaissent et vont couvrir l'ensemble du territoire celtique. Et par territoire celtique, en fait, j'entends l'espace européen sur lequel vont se développer ces grandes fortifications.
Donc de la Hongrie à la France.
C'est-à-dire de la vallée de la Garonne à la cuvette des Carpates. Hein, voilà, on a un des exemples les plus orientaux et sous l'agglomération de Budapest, en l'occurrence sur la colline de Gellert. Hein, donc c'est un grand espace au nord des Alpes, dans ces régions de collines, entre le massif alpin et les grandes plaines du nord de l'Europe. Donc c'est vraiment un des questionnements d'aujourd'hui qui est reformulé. Parce que voir la soudaineté de ce phénomène, qui est corrélée avec une chute de population dans les plaines, c'est-à-dire en gros les espaces non fortifiés, non fortifiables, avec très probablement, au moins dans certaines régions, une baisse assez rapide de population. Et donc la vision du sujet a changé depuis quelques années, c'est-à-dire que quand on a commencé les fouilles du Beuvray, on considérait que les oppidas étaient une étape de plus vers l'urbanisation, vers la civilisation, hein, puisque la civilisation se rapporte au mot cité. Hein. Il n'y a pas de vraie civilisation sans ville. Hein. Et aujourd'hui, on est plutôt à voir les oppidas comme l'expression d'une crise majeure, dont on trouve très probablement l'écho dans les sources écrites, puisqu'on sait qu'un des moments les plus traumatisants de l'histoire romaine, c'est ce que les auteurs antiques ont appelé les guerres cimbriques, avec pendant deux décennies, à la fin du IIe siècle avant notre ère, des déferlements de populations barbares, et qui vont affecter en fait toute l'Europe méridionale, Italie incluse. Et ça, ce changement de regard, c'est pas seulement le fait qu'on a une documentation qui est affinée aujourd'hui, mais c'est aussi que, je dirais, depuis l'épisode des Twin Towers, on s'intéresse beaucoup plus volontiers aux crises du passé. Donc je crois que le regard des historiens et des archéologues aujourd'hui sur le passé est complètement différent, parce que malheureusement, on est de nouveau dans une grave période de crise.
Les premières fouilles de Bibracte ont porté sur un élément bien sûr constitutif des cités, l'entrée, la grande porte de la cité, ce que vous appelez la porte du rebout.
Oui, ben en fait, quand on a fouillé une forteresse ou une grande ville fortifiée, on commence toujours par la porte. Parce que généralement, à la porte, on a un résumé de l'histoire de la ville, et c'est bien été le cas. Bien que cette porte ait déjà été fouillée au XIXe siècle, on a pu se rendre compte qu'en fait, elle avait connu quatre états successifs. Donc, une remise en cause de l'architecture tous les 20 ans à peu près. Est-ce que, ben, on va observer cela partout sur le site, quelle que soit la nature de l'architecture, y compris pour les maisons, pour les ateliers, etc. Et donc, on a un résumé, en fait, de l'évolution de l'architecture des fortifications en un seul lieu du site.
Et puis, presque devant cette porte, mais extramuros, vous avez découvert nombre d'ateliers métallurgiques.
Alors, c'est une des particularités de Bibracte, on pourrait même dire une singularité, parce que tous les oppidas n'ont pas cette caractéristique-là. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que le peuple éduin, donc, dont Bibracte était la ville principale, sinon sa capitale, le mot de capitale n'est jamais donné dans les textes antiques, hein, avait rapatrié dans l'enceinte de la ville tout son artisanat, on pourrait même dire son industrie vu son échelle, qui avait une forte valeur ajoutée, qui avait une valeur stratégique. C'est-à-dire que tout ce qui se fabriquait en métal à l'époque de Bibracte, qu'il s'agisse de la monnaie, des armes, des véhicules, hein, des ustensiles,
carrure,
de cuisine, tout semble avoir été fabriqué à Bibracte.
C'est un élément constitutif,
voilà,
de la ville.
Tout à fait. Et dans une multitude d'ateliers d'échelle familiale, mais il y avait véritablement une multitude, ce qui fait que l'échelle de la production était industrielle. C'est pour ça qu'on aime bien nous parler d'économie proto-industrielle. Et cette particularité va être transférée à Autun, capitale gallo-romaine des Éduins, qui restera un arsenal des armées romaines du Nord-Ouest jusqu'à la fin de l'Antiquité.
Peut-être deux mots aussi sur la découverte de mines d'argent, qui sont liées bien sûr à cette activité industrieuse de Bibracte. Mines d'argent sur les pentes donc de cette montagne, de cette colline du Mont Beuvray.
Voilà, alors ce qui préside au choix de Bibracte, je dirais, comme lieu central des Éduins, c'est une position géographique au cœur du territoire, c'est une position topographique et stratégique tout à fait avantageuse, mais c'est aussi le fait que le Morvan est extrêmement riche en minerais de toutes sortes, et on se rend compte depuis une vingtaine d'années que tout ce qui était ramassable a été ramassé avant l'époque romaine, c'est pas toujours très bien daté, y compris à l'intérieur de la ville du 1er siècle avant notre ère, où des mines ont été actives, effectivement, à plusieurs endroits du site. On en a fouillé deux, mais il y en a probablement beaucoup plus. Et il semble qu'en fait, que le minerai qui était recherché à l'intérieur de la ville, c'est effectivement de l'argent, mais on va trouver à proximité du fer, on va trouver de l'or, on va trouver de l'étain à proximité de la ville d'Autun. Donc, une richesse absolument exceptionnelle sur ce territoire éduin.
Vincent Guichard, qu'en est-il du ou des remparts? Encore cette année, Sophie Cros de l'Université de Paris 1 a ouvert un chantier autour d'une porte et des remparts.
Alors, Les remparts sont vraiment la caractéristique principale des oppidas. Hein. C'est ce qui les définit véritablement d'un point de vue archéologique. De très très grandes étendues délimitées par une fortification. En l'occurrence,
135 hectares, alors, 200 hectares et ensuite...
Voilà, alors, en l'occurrence,
hectares,
ce que l'on connaissait au XIXe siècle, c'était 135 hectares fortifiés avec un rempart d'un peu plus de 5 km de longueur. Et puis, dans les années 1980, on a réalisé qu'il y avait un rempart plus ancien qui fait 7 km de longueur. Et ça aussi, c'est une particularité qui fait que le développement de la ville fortifiée de la fin de l'âge du fer n'est pas le même que celui du Moyen-Âge, par exemple, où on a plutôt tendance à augmenter la taille du rempart en fonction de l'augmentation de la population. Là, on a à l'inverse un projet extrêmement ambitieux, probablement éphémère, et que l'on a revu à la baisse très très vite au tournant du 2e et du 1er siècle. Ce qui veut dire que probablement on avait le besoin de stocker dans ce rempart des troupes en quantité tout à fait importante, ou d'en faire un lieu de refuge pour une population importante.
Et ce rempart est constitué par un élément très particulier, le bois, ce que Jules César appellera les Murus Gallicus.
Voilà, donc c'est une curiosité qui avait frappé César, il le décrit de façon très, très précise à propos du rempart de Bourges, ville qu'il assiège en 52 avant notre ère. Donc en fait c'est un rempart de terre, à armature de poutrage de bois, donc très très efficace pour lutter contre la sape, hein, avec un habillage de pierre en façade. Et c'est vraiment la signature de ces grandes fortifications de la fin de l'âge du fer. Technique de construction, alors qui a une origine proto-historique plus ancienne, mais les particularités du Murus Gallicus, en fait, se développent en même temps que les oppidas à la fin du IIe siècle.
Rentrons dans la ville, un centre monumental gaulois a été découvert sur une vaste plateforme dont la fonction est, semble-t-il, assez énigmatique.
Alors, les deux plus grandes découvertes, si on peut dire, depuis qu'on a repris les fouilles dans les années 80, ce sont deux espaces publics. Hein. Le premier espace public que l'on a découvert était un espace public purement romain, je dirais de style italien, et qui est daté de la décennie qui suit la guerre des Gaules. Donc ça fait remonter d'une génération l'architecture romaine dans ces régions du nord-ouest de l'Empire. Et puis, bon, jusqu'à une date récente, on manquait désespérément, je dirais, d'espace public non romanisé. Donc on a enfin mis la main sur un tel espace au début des années 2010. Donc c'est une fouille notamment de collègues français cette fois, hein, l'université de Besançon, de Dijon et de Toulouse. Donc une esplanade délimitée par une galerie de bois, donc ça fait 45 mètres de côté à l'origine, qui va être elle-même reconstruite 4 fois hein, pendant toute la durée du 1er siècle avant notre ère, et donc qui va continuer à fonctionner au moment où la ville se romanise. Alors, aucune trace explicite de l'usage de ce lieu. C'est à l'évidence un lieu public. C'est un type d'architecture qu'on commence à peine à découvrir. On a 3 exemples comparables qu'on a pu fouiller au cours des 20 dernières années en différents lieux de la France. Donc ça montre bien aussi qu'il y a différents aspects de l'architecture et de l'urbanisme de ces grandes agglomérations proto-historiques qui nous échappent encore complètement.
L'urbanisme de Bibracte est-il gaulois, romain ou romain avant l'heure ?
Alors, les deux mots capitaine. je pense que la ville qu'a découvert Jules César quand il y est rentré pour la première fois en 58 avant notre ère était une ville qui n'avait, jusqu'à preuve du contraire, aucune trace hein, de romanisation, ni de son urbanisme, ni de son architecture. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'architecture en pierre à la mode romaine. Il n'y avait pas d'architecture, il n'y avait pas de tuiles de terre cuite, etc. En revanche, dès le lendemain de la guerre des Gaules, on voit arriver l'architecture romaine, et d'abord, comme je l'ai dit il y a un instant, sous la forme d'un complexe architectural qui fait 100 mètres de côté, au cœur duquel on doit probablement identifier un forum, c'est-à-dire le centre de la vie civique, pour une communauté organisée à la mode romaine. Donc il est évident que le peuple éduin a voulu transformer sa capitale en une ville qui avait les traits d'une capitale romaine, d'une communauté organisée à la mode romaine, un petit peu comme on pouvait trouver des exemples en Italie centrale à la même époque. Donc Bibracte est les deux à la fois, hein, ça dépend à quel moment on regarde.
Si l'on regarde le plan d'ensemble, comment s'organise Bibracte ? Par quartier, mais surtout par une sorte de gigantesque avenue ?
Alors d'abord, il faut dire que la topographie est extrêmement contraignante. Hein. Donc c'est une grosse colline avec 4 sommets. Donc impossible de développer un urbanisme régulier, quadrillé, comme vont aimer le faire les Romains. Hein. Mais néanmoins, donc malgré ces contraintes, une avenue principale, une avenue centrale, hein, donc qui part de la porte principale, qui est la porte du Rebout, mais on connaît beaucoup d'autres portes, et à partir desquelles différents quartiers vont se développer.
Il y a un bassin extraordinaire au milieu, en granit.
Non, là vous allez me faire croire qu'il y a un gigantesque bassin. C'est un objet architectural relativement modeste parce qu'il doit faire une douzaine de mètres de longueur, mais néanmoins une curiosité qui doit, en granit rose parfaitement taillé, qui doit appartenir à la toute première phase de construction à la mode romaine au lendemain de la guerre des Gaules.
Vincent Guichard, 40 ans de fouilles, c'est énorme pour les archéologues. Vers quoi votre recherche va-t-elle désormais tendre ?
Alors, je pense qu'il y a encore énormément de choses à découvrir sur le site lui-même. Hein. Des questions qui sont ouvertes, par exemple, César nous signale que les oppidas sont des lieux de stockage hein, de denrées et qui se rapproche des oppidas dès lors qu'il a approvisionné son armée, mais on n'a aucune trace de ces lieux de stockage hein, de collectif. L'aristocratie également est très très peu présente avant la romanisation de l'architecture. On a des très très grandes maisons romaines, mais tardives à Bibracte. Hein. Est-ce que l'aristocratie avait une architecture spécifique au sein des oppidas ? Ça reste pas du tout évident aujourd'hui. Il y a la question des espaces vides aussi, parce qu'on a des espaces qui ne sont pas construits. Hein, et donc c'est un sujet de recherche, notamment développé par une excellente collègue tchèque, Petra Golanova, depuis quelques années, avec une très belle monographie qui est parue il y a quelques mois. Aussi, dans un espace urbain, il y a des espaces vides de vestiges, donc vides de vestiges habituels pour l'archéologue. Et comment on fait pour caractériser ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est des lieux où il y a eu du stockage de troupeaux, et dans ce cas-là, on pourrait peut-être trouver de l'ammoniaque, pour revenir au sujet, un autre sujet de cet après-midi, stockage de troupes, voilà, donc c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, avec notamment des approches paléo-environnementales, hein, nous travaillons sur l'ADN environnemental et des choses comme cela.
On parle de 135 hectares, quelle proportion du site de Bibracte a été fouillée, Vincent Guichard ?
Très peu. Hein. Donc sur 150 ans, avec une grande parenthèse de 80 ans, on est intervenu sur une douzaine d'hectares hein, sur le site, et encore sans les épuiser. Hein. Il n'est pas question de les épuiser d'ailleurs, puisque c'est un site dont la seule menace, en fait, c'est la truelle des archéologues. Hein. Donc on essaie toujours de choisir à bon escient les secteurs que l'on va fouiller. Donc il y a encore énormément de choses à faire, sauf d'autant plus qu'on s'est aperçu maintenant depuis une vingtaine d'années que l'agglomération antique ne se limitait pas à la partie fortifiée, mais qu'il y avait également des agglomérations satellites, notamment un très très grand quartier suburbain, à l'emplacement où la rivière Yonne a sa source, à 4 km des remparts.
Vincent Guichard, merci beaucoup. Le Mont-Beuvray donc est un site historique et naturel exceptionnel, avec un grand musée qu'il faut à tout prix voir, et un paysage absolument extraordinaire, donc à découvrir.
Merci beaucoup Vincent Charpentier, on vous retrouve très bientôt dans l'entretien archéologique. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Sandrine Chaperon, Bruno Sansigny, Loïc Dutoit, à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Élise Le, aujourd'hui à la technique. Et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme tous les jours, comme toujours sur l'appli Radio France tous les jours aussi, ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.
Et si je voulais avoir des jambes ?
Qu'est-ce que tu dis ?
La petite sirène est la plus célèbre création du romancier danois Andersen. L'océan n'est pas le monde du silence. On y entend des voix, fermez les yeux et ouvrez vos oreilles.
J'aime beaucoup notre vieil océan et tout ce qu'il y a dedans.
L'histoire de la petite sirène, un texte de Pierre Sange avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Réalisation Cédric Ossir. Des histoires merveilleuses, une collection à découvrir sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Question du soir, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 18h20, et c'est 1h30 d'analyse, de rencontres et de découvertes.
Quentin l'a fait.
Un débat d'abord, débat d'actualité avec des chercheurs et des experts, une discussion ensuite avec un invité qui vient parler de l'actualité de la recherche, de la pensée et des idées.
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.